Trouveau, c'est pareil. La carrière va partir en flèche, comme ça, là. Et puis, comme toujours, avec Monique à la technique, c'est évident. Voilà. Donc, chose importante à vous dire, et vous allez quand même vous libérer, pour le 12 et le 13 mars, c'est les 40 ans de Radio Libertaire. Ça se situe à côté, là, rue Espace Olympe de Gouges. Il y aura plein de choses qui se passeront, on détaillera ça en temps et en heure. On est là pour... Alors, avant qu'on commence effectivement à parler de Chasse et Croisée aux éditions Douro et de la trilogie spinoziste, il y a un petit fascicule qui est paru là. Ça vaut 4€, 3,90€, c'est Trac Gallimard, c'est Zemmour contre l'histoire. C'est un collectif d'écrivains qui s'est réuni sur divers sujets. Simone de Beauvoir n'est pas Jean-Paul Sartre, Pétain a bel et bien tué la République, Pétain n'a pas préparé la revanche, comme ça, qui démonte tous les mensonges et toutes les approximations qu'a pu faire notre camarade Zemmour, qui est jamais venu sur Radio Liberté.
Enlève camarade.
Voilà. on met un H, ça s'appellera l'humour.
Voilà.
Donc, on est là, sur Radio Libertaire, pour déjà parler d'un livre dont tu as été le responsable quand même, tu es l'éditeur, prends tes responsabilités.
Directeur de collection, je ne suis pas éditeur.
Voilà. Chassé croisé, édition Douro, Jean-Bernard Puy, Elisabeth Prouveau, c'est un livre de photos et de textes. Hein, c'est un jeu. Allez-y, c'est un jeu. Qui c'est qui s'y colle, là?
C'est elle, c'est elle.
Elisabeth.
C'est un livre qu'on a fait déjà assez longtemps, où je m'amuse avec une caméra, parce que moi je viens du cinéma, de filmer par exemple une journée de tournage ou quelque chose comme ça, mais au ralenti. Et après je choisissais les morceaux de photos, je reconstruisais une photo plus ou moins visible, que j'envoyais à Jean-Bernard. Jean-Bernard avait le droit de regarder 30 secondes, je crois.
30 secondes.
30 secondes. Et après, il devait
c'est
inventer
bien suffisant.
Une...
Hein.
Ensuite, il a inventé une histoire. Donc, ça fait un décalage qui est très, très marrant, très
intéressant. J'étais très inquiet parce que M. Coda me dit « Tu comprends, Elisabeth est photographe, ça c'est bien, mais elle photographie avec son ventre. » Alors, je lui dis « Qu'est-ce que...
Oui. » C'est vrai.
Alors, venant d'un monsieur qui a quand même écrit « La table était bonne et l'humeur joyeuse » et vice-versa, je ne comprenais pas tout ce qu'elle me disait, mais son rire qui coupait ses phrases comme un couteau sans lame auquel il manque le manche, coupe des tranches d'absurdité dans la réalité de la vie, me communiquait une joie intérieure qui m'inclinait à tendre une oreille complaisante et on saute des lignes. Dans mes nuits éthyliques, je prends le train pour nulle part où habite l'écriture et je bande... son supplice jusqu'à jouir. Bravo, monsieur Coder. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'Elisabeth, elle photographie avec son ventre?
C'est le cas, son appareil photo, elle le tient là. Hein, elle regarde pas.
Je regarde jamais
photo.
Dedans.
C'est du souffle, en fin de compte. Hein, c'est du souffle plus que de la vision, ces photos. Puis c'est toujours un mouvement. N'est-ce pas? C'est du cinéma, enfin, quand tu fais de la photo, mais c'est qui...
Non,
c'est...
du cinéma, tu regardes dans la caméra.
Oui, mais...
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de saisir l'énergie des corps. En principe, je fais que des corps nus. Et parce qu'on est aussi ça, donc ça fait des corps. Comme c'est en mouvement, la personne bouge et je filme au huitième de... en pose longue, donc ça fait des formes qui sont différentes du corps, mais qui sont pour moi aussi le corps.
Tu sais que cinéma, en grec, c'est mouvement. Hein. C'est pour ça que tu disais que c'était
du
cinéma.
Voilà.
Parce que je sais très bien que c'est de la photo. Hein.
Si on ne voyait pas la vitesse de la lumière, on se verrait complètement, complètement déformé.
Donc il y a 46 jeux, c'est ça?
Voilà, parce qu'on est à l'époque...
On est né en 46.
Franchement,
ça fait peur.
On ne pouvait pas en 23, parce que là, il y aurait eu un petit problème. Donc ça donne un exercice de mémoire, pour ce qui est de Jean-Bernard, qui est assez précis. Le texte est précis, Jean-Bernard.
Ben oui, parce que il fallait quand même que... Quand arrivait la photo, il fallait que le lendemain, le texte soit prêt. Hein. Sinon, ça gueulait de l'autre côté. Donc, et puis, il y a longtemps, il y a presque... Quoi, il y a 35 ans qu'on l'a fait.
Non, il y a
25 ans.
Il y a les dates.
D'accord.
Donc,
il y a 20 ans.
T'étais tout jeune. Ouais,
vous baratinez tous les deux.
Bah oui, il y a 20 ans, c'est pas tout.
C'est pas qu'on baratine, c'est qu'on perd la mémoire, vu notre grand âge.
On a commencé en 2001, on a fini en 2006.
Donc le rapport est très bizarre, parce que les photos sur le ventre, ça donne quelque chose d'assez flou.
En mouvement, pardon, flou.
Oh d'accord. Alors, en mouvement, mais ça bouge.
Ce qu'on appelle bouger.
Tandis que le texte de Jean-Bernard, lui, est très précis.
Très précis, pas du tout en mouvement.
Voilà.
D'ailleurs, en ce moment, encore moins, parce que bon, je ne peux plus bouger. Mais non, c'était pour moi. J'aurais jamais cru qu'un jour, toute la bande serait là dans une radio immémoriale. et extrêmement importante pour parler de ça. Moi, je m'amusais. Je recevais la photo, ouais. Je regardais 30 secondes, parce que je ne suis pas un tricheur. Et 30 secondes après, j'avais oublié ce qu'il y avait sur la photo, donc ça me... À part une impression. Et c'est sur cette impression que des souvenirs, parce que moi, il fallait que je parle de souvenirs quand même, que des souvenirs apparaissaient. Et là, j'essayais de les gratter en vitesse.
Ça sert de déclic, les photos, ou pas ?
Tout sert de déclic.
D'accord.
Oui. Une fois que c'est enclenché, c'est enclenché. C'est comme un...
Comme un appareil photo.
Un appareil photo.
Parce que ce qu'il faut faire, c'est rechercher le rapport qu'il y a entre la photo et le texte. C'est pas facile à trouver. Il y a même des rapports paradoxaux, parce qu'à un moment donné, dans la, quand on, je crois que c'est, il y a une photo du Touquet, mmh. Il part de la neige.
Oui, mais c'est bien parce que la plage était très claire. Toi, t'as vu de la neige. Moi, ça m'intéresse le décalage. Il voit autre chose, lui. Effectivement, ça pouvait être de la neige.
Oui, puis ça, la photo, l'écriture, on met un petit moment quand même à la coucher sur papier. Donc ça permet de réfléchir un peu et ça permet d'inventer ou de raconter des conneries. Quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout là à enchaîner à une vérité qui serait celle d'un instantané et tout. C'est un mélange d'impressions, sûrement de sa part, et donc obligatoirement d'impressions de la mienne.
Alors moi j'ai tourné, là, et bien sûr quand on lit dans l'ensemble, il y a un nom qui vient. C'est le nom de Pérec. On songe à Georges Pérec.
Il y a 20 ans, mon pauvre ami, il y a 20 ans.
Alors c'est très
je
bien.
Je ne sais pas si j'ai pensé à Pérec, mais en tout cas, Pérec, c'est quelqu'un que
Jean-Bernard,
que
c'est très bien, parce qu'il y a un aveu dans ce livre. Je crois que vous habitez entre République et Bastille.
Oui.
Alors, dans votre mémoire troublée, je ne sais pas si vous vous souvenez, Place de la République, il y avait un magasin, avant le magasin de sport, là, où ils avaient mis en vitrine des phrases entières de Pérec. Vous n'avez pas vu ça
pas, non.
Donc,
pas
c'est
vu
l'inconscient
ça.
Qui vous a frappé la tête sûrement, là. Et on lisait
Je n'ai pas d'inconscient.
Je me souviens, je me souviens, je me souviens. Et il y avait les phrases de Pérec qui arrivaient comme ça.
Non, mais moi, comme je connais bien le quartier latin, tout ça, bon, Pérec, pour moi, c'est la rue Linné et tout ça. Enfin, c'est ce coin-là. C'est au-dessus du jardin des plantes. Donc, non, je n'ai pas pensé à ça. Mais je ne sais même pas si j'ai vu ça. Et puis, d'ailleurs, le quartier République, j'aime pas.
D'accord.
Donc, ça m'étonnerait. Mais enfin, je préfère plus bas, moi. Je préfère du côté du Marais. Enfin. Plus maintenant.
Non, plus maintenant, c'est ce que j'aime.
Avant, oui.
C'est ce que ça. C'est
bien avant.
Mais moi, j'aime bien le décalage que ça crée. En plus, c'est drôle parce qu'il y a des quiproquos, il y a plein de. C'est vivant, c'est absolument pas une description. C'est ça qui était important.
Oui, oui.
C'est que ce soit que ça fasse rêver. Ça
donc, c'est très drôle parce qu'il y a des choses comme ça auxquelles on n'avait jamais pensé. On lit ça auxquelles on n'avait jamais pensé, auxquelles on se retrouve confronté grâce à la lecture. Et en particulier, pour moi, en tant que lecteur, c'est l'absence de rouge dans Paris. Il y a toute une page qui est consacrée au rouge.
Sauf les jours de manif.
C'est beaucoup plus. C'est là que ça devient sympathique entre
la République,
entre République et Bastille. Mais l'absence de couleur rouge.
Oui, c'est vrai. Je l'aurais pas spécifié comme ça, mais c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai.
Mais ça, c'est marqué dans le texte. Hein.
Oui, oui, oui. Mais
une photo rouge, c'était Paris rouge.
D'accord,
c'était
oui,
un
d'accord.
Mur avec plein de choses rouges, je ne me souviens plus exactement ce que c'était. C'est pour ça que tu avais parlé du rouge.
Mais je n'ai pas écrit tous les textes, donc il y a mon inconscient qui s'en est chargé pour le reste. Donc ça, je l'avais oublié, ça, c'est vrai.
Il y a un nègre qui travaille là-dessus. Oh, pardon, peut-être une anecdote très, très drôle. Tout à l'heure, on attendait M. Pouy qui arrive. La sonnerie, la porte sonne. Je vais ouvrir, et devant moi, il y avait un immense Africain qui faisait 2 mètres, et je lui dis, Monsieur Pouy, il me dit, moi, c'était absolument, absolument remarquable.
Ah, il a répondu quoi?
Il m'a répondu, je cherche le 200. Je cherchais le 200, donc il n'y avait pas...
Belle réponse.
Il n'y avait pas un gros rapport. Donc, tout à l'heure, puisque Monsieur Coda se pique de peinture, on avait un mystère par rapport à un des textes, oui, là.
L'arrêt.
Je vais dire 3 lignes et puis on va voir. Peut-être que l'arrêt de Chardin est l'un des plus beaux nus de l'histoire de la peinture.
C'est ce que je pense.
Oui, oui, d'accord.
J'attends les explications.
Ah bon, d'accord.
Ou alors le texte est piégé, c'est une autre raie que tu évoques.
Mais c'est non, pas du tout. Mais,
Évidemment.
Mais bon, bien évidemment, mais sinon, blague, oui. Mais non, je trouve que c'est très, très. est très dérangeante. C'est comme si c'était une femme nue offerte et un peu ouais, méchante, c'est... un peu ah, dangereuse. Oui. Ah. Mais ouais, dans ce tableau, ce qui m'intéresse, c'est le chat. Parce que c'est le seul chat de la peinture qui est terrifié.
Oui, qui est...
Par quoi Mystère. Je pense que c'est par l'arrêt, quand même. pas l'arrêt d'autobus, hein, l'arrêt de...
Non, c'est pas celle-là non plus. Moi,
mais bon. Le chat. Ah, mais ça, c'est une orientation connue, monsieur Codin.
Oui, monsieur Codin, par là.
Il n'y a aucun...
pas de problème, on comprend.
Codin, ça veut dire problème. La queue. Hein, c'est ça.
Mais aussi bien dans Spinoza, dans la trilogie, que là, dans ce livre, on trouve toujours des références à la peinture. Ben, comme un regret de ne pas avoir été peintre.
Mais il est peintre.
Mais c'est ma formation. Hein, c'est-à-dire que j'ai essayé d'être peintre pendant longtemps, et puis à un moment donné, un crétin m'a poussé vers le livre. Donc bon. Et malheureusement, j'ai un peu abandonné la peinture. Mais je peins toujours, et ce qui est le plus important, c'est que même si on ne peint pas, on a toujours les références, nos références préférées picturales, et c'est là où des espèces de destins ou de dessins apparaissent. Bon, en ce moment, d'ailleurs, je suis très Chardin, parce que j'ai découvert une toile de Chardin qui doit être au musée de Lyon, je ne sais pas où, qui est un vase de fraises. Il y en a deux ou trois, le Chardin. Enfin, vase de fraises. Mais devant, il y a trois objets et par ordre croissant d'intérêt. Il y a une cerise, deux, je ne sais plus quoi. Enfin, ça monte un, deux, trois. Pour arriver au bol de fraises, où là, on ne peut pas compter.
Évitez de taper sur la table, sinon Monique est armée. C'est un sniper redoutable. Voilà. D'ailleurs, moi, j'ai trouvé que les photos d'Elisabeth sont proches de la peinture.
Ah bah oui.
C'est proche de la peinture, une espèce de décharge électrique comme ça qui passe. Là. Et parfois, c'est quasiment, même si on arrive à déterminer des choses, c'est quasiment abstrait, des fois.
Oui.
Non.
Oui, mais c'est... Vous trouvez ?
Oui.
Moi, je trouve que c'est la vie, parce que tout est en mouvement.
La vie, mais je dis pas.
Chaque objet est en mouvement toujours, nous, on est en mouvement toujours. Donc, pour moi, c'est normal, quoi. J'ai une vision normale.
Je suis d'accord. J'ai fait une émission, il n'y a pas longtemps, avec M. Jacques Codin, qui a dit une horreur qui a choqué des gens. Là, qui a dit, oui, mais parfaitement, monsieur, je tiens à vous le dire. Il a pris l'air décontracté de celui qui touche à rien. Vous avez dit, M. Codin, oui, on a parlé de l'abstraction. Il m'a dit, oui, c'est facile, l'abstraction.
Oui, c'est vrai.
Et moi, je ne sais pas, de Jackson Pollock. Oui. Voilà, et Jackson Pollock, c'est abstrait, mais c'est la vie.
Ben oui, c'est la vie.
C'est la vie, donc il n'y a pas du tout un antinomie entre les deux. Hein.
J'avais aussi évoqué de Kooning, que je préfère beaucoup à Pollock. C'est tout. Mais c'est de Kooning. Ah, oui. Willem de Kooning. Je fais l'accent.
Donc vous avez quoi l'accent
c'est fastoche à faire, oui. C'est fastoche. Mais c'est un point de vue.
Allez-y, Elisabeth.
Mais non, mais ça veut rien dire.
Moi, c'est ma pratique.
D'abord, ça veut dire quoi abstrait ? Ça veut dire quoi ? C'est difficile ? En art, c'est compliqué, quoi.
J'ai beaucoup d'amis qui font de l'abstraction parce qu'ils ne savent pas dessiner, en gros, voilà, pour le dire plus clairement et plus méchamment.
C'est toi qui dis ça, oui.
Voilà.
Donc j'ai des gens qui ont été choqués par.
J'espère bien.
J'espère. Ils ont été. Mais de toute façon, le principe de l'art, etc. Mais il y a un autre principe qui revient dans... C'est Jean Bernard, c'est le principe de la vache. Et on trouve, oh, on trouve
oui,
la vache.
Ça t'adore ça, toi.
Ah, mais bravo. Quand j'ai commencé à...
Oui, voilà, merci de sortir. Ben
c'est Chardin qui appelle.
C'est Chardin qui appelle, oui. C'est pas la première fois. On a des célébrités.
4-5-6, qu'il y a des cerises.
La fascination, on trouve ça aussi dans la trilogie. À un moment donné, il y a une phrase de Jules Renard qui est magnifique sur la vache.
Ah oui, mais je ne sais plus laquelle, mais enfin oui.
Ah si, bah, je vais la trouver si elle n'est pas. Allez-y, pourquoi la vache là,
tu dis la vache est notre mère à tous.
Ah là.
Oui, je crois que c'est Marguerite Duras qui a dit ça.
Ah ouais.
Voilà. Je l'ai là.
Quelque chose sur la vache, une espèce d'innocence, c'est pas ça, sur l'innocence de la vache.
Toujours, j'ai un souvenir très violent de l'innocence des vaches.
C'est ça la phrase de Duras.
N'oublions jamais que la vache est notre seconde maman.
Oui.
Jacques Lacan. J'ai un souvenir très violent de l'innocence des vaches, Marguerite Duras.
Ça, c'est vrai.
Hein, voilà, et puis après, c'est... Mais par contre, alors, je ne sais pas si c'est la phrase, elle est truquée ou pas, parce qu'elle est tellement belle que là, c'est dans la trilogie, on trouve « Beauté de la littérature, je perds une vache, j'écris sa mort, et ça me rapporte de quoi acheter une autre vache. Voilà. » Jules Renard. Ça, c'est somptueux. Hein.
Alors, je ne sais plus si c'est vrai ou si...
C'est...
je peux pas te dire il y a trop longtemps, puis je perds la mémoire en ce moment, c'est terrible. Non, moi la vache c'est un animal, enfin un morceau de paysage qui me triture le mental. Enfin, bon, parce que quand je vois une vache, ou je suis triste, ou je suis énervé. Mais il n'y a pas de moment où je vois des vaches et où ce qui me repose. Je pourrais pas être bouddhiste parce que je pourrais pas me mettre devant une vache et être tranquille. Je suis toujours énervé ou effrayé ou je les plains, quoi, en fait, c'est ça. C'est pas la peine de me regarder comme si j'étais un malade mental.
Non, pas du tout, mais la phrase, la vache, c'est l'art.
La vache, c'est l'art.
La vache, c'est l'art. Le cochon aussi, bon, passons. Ce qu'on va faire, on va écouter un petit peu de musique. Avant, je vais vous raconter une petite histoire sur la rue. C'est comme quoi la rue est une grande critique littéraire. Il y avait un kiosque à journaux qui se situait au croisement du boulevard d'Aménine de Montant et de la rue Oberkampf. Et il est resté pendant un an fermé. Et derrière le plexiglas de ce kiosque, il y avait une affiche où c'était une dame qui avait des gros seins comme ça, avec des étoiles au bout des seins. Et c'était Julie, la mère Noël aux gros seins. C'était comme ça, c'est resté pendant un an, tout le monde, c'était absolument stupéfiant. Et comme quoi, notre Spinoza en cul des gueules avait fait Flores, il y avait sûrement des petits-fils de situationnistes qui avaient marqué au-dessus comme ça, Wittgenstein, sus. Et puis il y avait Schopenhauer. C'était Wittgenstein, sus Schopenhauer.
Oui, oui.
Il y avait une filiation qui s'était faite.
D'ailleurs, j'avais fait une suite. J'avais commencé avec Spinoza, mais je voulais pas écrire à l'époque. J'avais fait ça pour m'amuser, quoi, en fait. Et on m'avait demandé immédiatement un deuxième, et j'avais pris Wittgenstein comme...
génial.
Comme personne.
Donc, à moins qu'il le sache ou pas, mais c'était une critique littéraire extraordinaire.
Non, mais bravo, oui. Mais je pourrais, il y a un lien, hein. Enfin bon, c'est Wittgenstein qui écrit « Le monde est tout ce qui arrive ». Une phrase que je trouve formidable. Donc, et c'est un personnage, parce que moi dans les philosophes, je suis pas philosophe évidemment, dans les philosophes c'est les étranges et les démons qui me plaisent. Moi. Wittgenstein qui ne pouvait, vers la fin de sa vie, penser qu'en faisant la vaisselle. C'est quand même formidable le rapport entre l'idéologie, la métaphysique et la vaisselle. Il y a de quoi écrire dessus longtemps et dignement. Donc Wittgenstein, c'est un personnage, quoi. Bon, c'est vrai que Spinoza, c'est un personnage.
Mais vous l'avez lu, Spinoza, ou pas au départ ?
Qu'est-ce qu'il en reste ? J'ai compris.
Parce qu'on se demande si c'est pas l'expression qui fonctionne ou si on est vraiment plongé dans Spinoza. Vous savez, j'ai un ami qui s'appelle Jimmy.
Non, Spinoza, attends, je vais dire.
Allez-y.
Parce que ça va arrêter tout. Spinoza, pour moi, c'est l'anagramme de Pizza Pino.
D'accord.
À un Z près. Donc, c'est ça qui m'a intéressé d'abord. C'est pour ça que j'ai choisi Spinoza. Et puis après, je me suis intéressé effectivement un peu aux philosophes que je connaissais, parce que bon, on fait des études quand même. J'étais pas sûr de tout comprendre. Et comme pour Spinoza, Dieu, c'est la nature. Je résume, hein. Il y a des gens qui vont téléphoner en disant bon, c'est qui ce connard, toi? Comme la nature c'est Dieu, c'est l'idée de nature, c'est l'idée même du divin, ça me donnait le droit de parler de tout et de n'importe quoi en disant là est l'essentiel.
J'ai un ami qui est mort qui s'appelle Jimmy Gladiator. Et lui qui a écrit un livre qui s'intitule Éléphant de la patrie. Et dans Éléphant de la patrie, il imagine, c'est très proche du troisième tome de Spinoza, il imagine un régiment d'éléphants qui traverse la place Saint-Sulpice et qui détruit toutes les stands du marché de la poésie. Voilà. Et à un moment, un jour, je lui ai demandé, mais pourquoi les éléphants ? Il me dit, bah non, je m'en fous, ça aurait été rhinocéros, mais c'est pour la phonétique. Éléphant de la patrie, etc. Mais etc.
Oui.
Voilà. Hein ? Merci, Monique. Thank you. Vous parliez de choses très savantes hors antenne. Là, c'est très rare que quelqu'un cite Papini.
Ah,
c'est très rare.
Encore un dingue.
Oui, oui, c'est très très rare. Et vous l'avez lu Papini ou pas?
Oh, c'est j'ai une chose dû comme lire. Ça. Non, j'ai pas lu complètement. J'ai dû lire des extraits ou ainsi de suite.
D'accord.
En lisant, parce qu'en même temps, les gens qu'on aime ou qu'on aime vraiment ou qui nous étonnent vraiment, en fait, si tu les réunis et qu'ils donnent leur choix, ça te fait une bibliothèque d'enfer, quoi.
Vous avez dire que Papini, il a écrit sur le diable, c'est ça, Papini, hein, sur Satan, sur des choses comme ça.
Cette hérédité, bon, il a une histoire. Au départ, il était pro Mussolini. Hein, il a une histoire politique assez ondoyante. Mais c'est marrant.
Mussolini était socialiste. Hein,
je l'ai pas appelé camarade dans celui-là. Je vais faire remarquer.
Anarcho-socialiste.
Je l'ai pas appelé camarade. Mais on trouve des noms qui sont récurrents. On trouve Gada qui revient.
Oui, bien sûr.
Voilà, ce qui est assez rare de voir Gada.
Très grand écrivain.
Oui, bien sûr, voilà. Par contre, ce qui est très rare, c'est de revoir, je crois que c'est à deux fois ou trois fois, il y a Daniel Biga, l'oiseau mexican.
Ah, mais ça, c'est ma passion pour la poésie, quoi.
Enfin, d'accord.
Étant donné que je ne la pratique pas et que je suis extrêmement admirateur. Et surtout quand les personnages correspondent un peu à leurs écrits. Alors, du coup, Biga, je l'ai rencontré. J'ai cherché à le rencontrer à Nantes. Et le personnage est aussi étonnant que ce qu'il écrit, quoi. Mais bon. Qui lit Biga maintenant?
C'est bien pour ça m'a étonné. Voilà. Mais il y a. On va raconter l'histoire. Ce livre, le premier tome de cette trilogie, je l'ai fait lire à une jeune fille. C'était comme si c'était.
Dans quel but?
Non, c'est rien. C'était absolument platonique. Et c'était pour elle une lecture d'extraterrestre. Et comme elle fait de la philosophie assez poussée, elle m'a dit cette phrase simple. Elle me dit: mais qu'est-ce qu'il a contre Hegel? Alors, qu'est-ce qu'il y a contre Hegel? Qu'est-ce qui vous a fait Hegel?
Mais moi, j'ai été poursuivi en tant que militant libertaire. J'ai été poursuivi par ce qu'on a appelé quelquefois les jeunes hegeliens. Alors ça, ce mouvement des jeunes hegeliens nous a pourri la vie quand j'avais 25 ans, quoi, 25 ans. Donc je gardais toujours j'avais toujours une dent contre les jeunes hegeliens. Et de hegelien, c'est passé à Hegel. Alors que Hegel, j'ai rencontré des gens qui travaillent, enfin des dingues, hein, qui travaillent que sur Hegel. Il y avait un mec qui est mort il n'y a pas longtemps, là. Et sur l'herméneutique et tout ça, c'était assez passionnant.
C'est passionnant,
mais
Hegel,
le
oui.
personnage n'est pas très intéressant.
Mm-hmm. Mais qu'est-ce que ça veut dire une phrase, en introduction? Qu'est-ce que c'est vous qui l'avez écrit, c'est pas craignez rien, là. Comme quoi l'édition serait, et le monde de l'édition serait hegelien. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous le cite, monsieur Pouy, parce que vous n'allez pas. Voilà, je l'ai là. D'autant plus que je n'avais aucune envie ni d'écrire, ni d'entrer dans le monde, ma foi, extrêmement hegelien de la littérature, fût-elle de gare, et de l'édition, fût-elle de poche. C'est quoi le monde hegelien de la littérature de gare, par exemple?
Je ne sais pas.
Vous qui l'avez écrit, hein.
Oui, mais bon, mon pauvre ami, tout
son vécu.
Non, mais je pense que la littérature de gare, c'est quelque chose de précis. C'est une littérature qui a un départ à l'heure et une arrivée à l'heure.
Jadis.
Si ça merde à côté, ça n'a pas d'air. Alors, la littérature dite de gare, dite populaire, bas de gamme, elle est toujours à l'heure, au rendez-vous.
D'accord.
Même du mauvais goût, même des mauvaises pensées, même tout ça. Mais c'est ça qui est intéressant. Et puis, ce qui est intéressant dans la littérature de gare, c'est que j'ai toujours soupçonné que enfin, il faudrait demander à un éditeur si c'est possible, mais j'ai toujours soupçonné que certains livres, certaines collections proposaient des livres en rapport avec les trajets. Par exemple, il faudrait que ça, ce livre-là, soit c'est très bien pour un Paris-Niort, par exemple.
parce que tu reviens de Niort, c'est pour ça que tu dis ça.
Voilà, alors donc 2h30, il faudrait...
Il n'en existe plus beaucoup, hein, littérature de gare aujourd'hui. Je ne suis pas éditeur, je suis comme toi, je suis directeur de collection. Non, il n'y en a plus aujourd'hui, il n'y en a plus.
Il n'y en a plus, la dernière. Moi j'ai essayé d'en refaire avec le poulpe, mais bon...
Mais on est en plein dans le nœud du sujet, parce que c'est là, toujours ma jeune fille, là... Elle a lu en quatrième de couverture que Spinoza en cul des gueules, une littérature populaire. Et elle m'a dit, c'est pas une littérature populaire. Elle m'a dit, ça appartient à une époque. Moi, je ne peux pas suivre. Et pourtant, c'est une littéraire costaud.
J'ai cassé ton cou, alors?
Non, pas du tout. Non, me le casse pas comme ça. Il n'y a aucun problème. Et quand on lit. L'exemple le plus flagrant, ça m'est arrivé le jour où j'ai décidé de faire l'émission. Je descends dans le métro, et là je touche juste, là vous allez voir. Ils ont ressorti un film qui s'appelle Neige.
Oui.
Voilà. Ah oui.
Voilà. Je tombe dans le métro, je vois cette affiche magnifique, c'est après Marc Villard, un livre de Marc Villard, avec Juliette Berthaud, il y a Juliette Berthaud qui joue dedans.
C'est un scénario original de Villard.
C'est un scénario original,
c'est pas
voilà.
Tiré dans ses livres, oui.
Dans ces années 80 à peu près.
80, c'est 80.
C'est
Juliette Berthaud avec un mec.
Juliette le metteur en scène.
Ouais. Berthaud avec un mec, avec Martin.
Avec son copain.
Son copain, c'est ça.
Et ce qui est très curieux, qu'on voit cette affiche qui est très simple. Il y a Stévenin, il y a Berthaud en face. Se dit, mais qu'est-ce qu'elle est datée? C'est-à-dire, comment ce qu'on appelle ce cinéma populaire, est-ce que c'est du cinéma populaire? Oui, mais vraiment pris dans un certain monde.
Ben oui, mais enfin, c'est le monde change. C'est vrai que le cinéma populaire, maintenant, c'est les conneries avec Junio et compagnie, quoi. Enfin, bon, enfin, j'ai écrit pour Junio, alors je sais très bien ce que je dis. Mais les références, le jeu, c'était quand même essentiel, c'est le jeu des références. Il y a les époques appellent leurs références, mais les références qui sont continues. Donc maintenant, les références qu'on employait, nous, il y a 30 ans, sont oubliées, finies, déplacées, au profit d'autres. Hein, bon. En ce moment, j'ai perdu toutes les références qui tournent autour de la musique. Nous, la musique, c'était simple, c'était le rock'n'roll, et puis basta, enfin bon, à part la grande musique. Mais là, maintenant, avec le rap, les trucs, bon, enfin, ouais, moi, je suis perdu. Donc là, il y a quelque chose qui est très populaire, la musique, et surtout la musique un peu dure comme ça, mais j'ai plus les références, donc je j'entends pas, quoi.
D'accord. Mais quand on regarde toute la littérature de cette époque-là, Villard, Puy, Manchette, on s'aperçoit que c'est extrêmement destroy. C'est-à-dire qu'on est dans une époque qui est quand même une époque calme, même s'il y a la bande à Badère, même s'il y a les brigades rouges, même s'il y a Action Directe, mais on n'en est pas à l'époque des attentats qu'on a eus dernièrement. Et tous ces auteurs-là, aussi bien les Spinozis que chez Manchette, on trouve des gens, ça déglingue à foison.
Ah oui, mais c'est presque abstrait.
C'est
presque
là.
Symbolique. Oui.
Bien sûr, ça déglingue à foison.
Ça devient la référence. C'est plus facile de dire. Moi, j'étais pour la bande à Badère que essayer de repartir de Stirner, Ratata, de parler de l'Allemagne à ce moment-là. Au moins, c'est assez direct et tout. Et bizarrement, tous ces groupes un peu énervés et violents de l'époque, ils sont restés dans la mémoire des gens. Et j'ai lu un livre très, très marrant, il n'y a pas longtemps, d'un auteur suisse, dont j'ai oublié le nom, évidemment, mais qui avait été extrêmement choqué par le fait que quelqu'un avait essayé de tuer d'abord, puis après, de retuer, comment il s'appelait, ce gauchiste allemand très rudi...
Duschke, non ? Duschke, non ?
Duschke. Et il n'avait jamais été... satisfait de ce qu'était devenu la vie de Duschke, qui est un peu mort de certaines de ses blessures et tout. Et donc lui, il est tombé amoureux d'une femme qui il a un peu demandé qu'est-ce qu'il pouvait faire pour gagner son cœur. Et elle a dit, foutre le feu à la baraque de comment il s'appelait
le patron des patrons des...
Oui, c'est ça, celui qui avait toute la presse, qui avait monté tout le monde contre Duschke, au moment où quelqu'un a suivi ces préceptes-là. Et donc il le fait, par amour, c'était plutôt un intello, il monte dans la montagne, un très beau chalet, il fout le feu, quoi. Et on n'a jamais trouvé à l'époque qui avait fait ça, parce que c'était pas un terroriste, c'était en même temps un acte d'amour et un acte d'amour bien dirigé. Et donc il a écrit un bouquin là-dessus, où il le dit, il doit y avoir prescription, donc il s'est dévoilé, il a eu aucun problème. Enfin, il a été au contraire invité à la radio, ah c'est vous, voilà. Donc c'était assez passionnant, quoi.
Mais c'est massacre, parce qu'on trouve les mêmes chez Manchette. Manchette, c'est beau, je sais pas si vous pratiquez Manchette.
Comment ça, si je pratique
Manchette? Non, si vous avez lu Manchette.
Ah bah oui, bien évidemment. Voilà. Mais Manchette, je suis très partagé. Je le déteste, je m'en doute alors. Je l'aime et je le déteste.
Et pourquoi? Savoir vite.
Parce qu'il y a ces bouquins qui me sortent par les trous de nez.
D'accord.
Quoi. Le dernier, notamment, La position du tireur rouge.
Il ne sera pas d'accord.
Oui, mais c'est un bouquin que je hais.
D'accord, on ne sera pas d'accord. C'est un fonction de livre de chevet, c'est pas grave. Mais c'est pareil, on trouve des tueurs fous, des tueuses folles. C'est-à-dire, là, est-ce que c'est prémonitoire ou c'est quelqu'un, une chose dont on avait besoin pour écrire?
Mais ça, on arrive. Vraiment, c'est difficile à savoir. Il y a quand même, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un côté cumulatif à cette littérature, surtout si on parle du mal, si on parle de la violence. C'est pour ça que moi, j'essaie de ne jamais trop parler de violence, ou alors, si elle est ultra abstraite et symbolique, mais je ne parle pas de violence, parce que c'est vraiment un cercle clos. En fait, tuer quelqu'un, ça arrive tous les jours, c'est très facile, il y en a plein les journaux, c'est pas très, très intéressant, en fait. Donc, en ce moment, il y a une grande percée de cette littérature, qu'on appelle gore, ou le thriller, par exemple. Et qu'est-ce qui se passe avec ces littératures? C'est qu'ils n'avancent pas sur le motif de la vie, de la mort, de l'arrêt, de tout, mais sur le motif de la torture.
La littérature actuelle noire, c'est ça, c'est ce qui sort actuellement.
Il y a énormément ça.
D'accord.
C'est pour ça que moi je...
Cinéma, c'est pareil.
Ouais. C'est un peu partout. Ouais. Donc on peut pas... Sad, oui, un peu, mais enfin, depuis Sad, on ne peut pas travailler là-dessus d'une manière intelligente, quoi. C'est-à-dire, la mort, c'est la mort, la souffrance, c'est la souffrance, et ainsi de suite. Maintenant, qui l'exerce, qui la supporte, ça, c'est un autre problème. Mais c'est vrai que dans les romans de thriller, en ce moment, les gens s'intéressent D'abord, dans la littérature, on s'est intéressé aux victimes. Mais la victime, elle a déjà morflé, elle a été torturée, donc c'est difficile de réécrire sur elle. Donc il s'intéresse au tueur.
Au bourreau.
Au bourreau. Mmh. Et le tueur, pareil, au bout d'un moment donné, ça va. On voit cet auteur américain, là, Bret Easton Ellis, bon, il a été pas jusqu'au bout, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un bout à ça, mais il dit bien en écrivant et en accumulant ces espèces de poncifs sur la torture, il dit bien que c'est une voie sans issue, enfin bon, et que c'est pas intéressant. Donc il y a un peu de ça en ce moment encore, c'est revenu, alors que il y avait une autre tendance qui apparaît, qui est qui est le bourreau. Alors avant c'était des dingues, bon, pendant longtemps ça a été des dingues. Et maintenant, c'est les flics. Alors, c'est beaucoup plus intéressant. Ce qui n'empêche pas de dire que les flics sont dingues.
Oui. On n'empêche pas l'autre. Hein.
Ah, voilà.
Alors, c'est 79, Spinoza, en queue les gueules, c'est ça?
Oh, ben, j'ai commencé à l'écrire. Oui.
D'accord.
Oui, je l'ai écrit 3 ou 4 ans avant qu'il paraisse. Oui,
et vous aviez lu les gens qui précédaient dans cette veine, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle la série noire, des choses comme ça?
Ah ben oui, mais moi, j'étais un grand lecteur de ça, mais de tout.
Bon. D'accord.
J'ai fait des très bonnes études, moi.
C'est parfait. Hein.
Mes parents me forçaient à faire des très bonnes études. Henri IV, machin.
Enfin bon.
Parce que lorsque vous dites que pour être spinoziste, il faut avoir lu la mort de Virgile, de Brock, c'est pas donné à tout le monde. La connaissance de la douleur de Gada, c'est pas donné à tout le monde non plus. Et surtout, il y a un livre qui est très difficile, c'est Au-dessus du volcan.
Ah, moi je trouve que c'est le plus facile des trois.
Ah oui, d'accord. Il y a plein de petites notes en bas de page partout. C'est un livre qui part dans tous les sens, Au-dessus du volcan.
Oui, mais qui est d'une drôlerie, qui est d'une facilité à lire, hein, quand même. Bon. Il y a des choses, d'ailleurs, entre les romans qui se rejoignent. Dans la mort de Virgile, en fait, le simple fait que Virgile sort du bateau et met le pied sur la terre ferme, ça fait 350 pages, donc c'est intéressant. Bon. La même chose que dans Gada, il y a des scènes qui sont pour nous visuelles et immédiates, et qui font 100 pages de littérature.
Il y a le même principe chez Joyce que vous citez.
Ah bah c'est la même bande.
C'est le même,
hein,
principe, parce que je crois quand il revient, lui, c'est qu'il se met à chier, il y a je sais pas combien de pages pour dire qu'il chie, quoi.
Oui, oui. Voilà. C'est la même bande, d'ailleurs, oui, c'est un peu la même époque. Et souvent, on entend les critiques ou les historiens dire « celui-là, c'est le Joyce italien » ou ainsi. Ce qui est une connerie, parce que Joyce, on dit ça d'Italo Svevo.
Svevo, bien sûr, c'est inévitable.
Alors que ça n'a rien à voir avec Joyce. Et puis,
la conscience de Zeno, je ne sais pas si vous l'avez lu.
C'est parce qu'ils se sont rencontrés.
Bien sûr, oui, ils sont
mais c'est la même époque.
Ils étaient à Trieste ensemble.
Ça tournait, voilà, parce qu'ils étaient à Trieste ensemble, ça tournait autour de présupposés culturels, plus que de sens du texte.
Mais le seul que vous citez vraiment dans le texte, dans le corpus du texte, comme policier, c'est Chandler.
Ah mais Chandler, pour moi, c'est dans le champ du polar, évidemment.
Oui, bien sûr. C'est grand.
C'est le plus intéressant,
avec
Hamet,
hein, oui.
Parce qu'il a compris dès le début que c'est pas des histoires de flics. Il y a pas d'histoire d'amour, il y a pas de... Enfin bon, tout est la parole. Il torture personne pour apprendre la vérité, mais il le sent à la parole. Alors c'est un tchatcheur, c'est vraiment au sens du terme. Il parle, et les autres parlent en même temps que lui, quoi. Ils disent tout. C'est assez fascinant.
C'est au-delà de l'histoire, parce que quand il sort, c'est le grand sommeil, les gens disent qu'ils ne comprennent pas le grand sommeil. On ne comprend pas l'histoire.
Ouais, enfin, ça, je crois que c'est un... Il y a un côté mythe un peu là-dedans. Ouais. Parce que c'était... comment il s'appelle le réalisateur qui, à un moment donné, était coincé, ouais, et donc appelle Chandler en disant « Mais pourquoi ce tel personnage, il fait ça ?» Et Chandler dit « Oh, je sais pas, demandez à votre scénariste. » Scénariste, c'est Faulkner, donc c'est pas rien.
Bon, pas les choses.
Et Faulkner dit « Ah, ben, je sais pas, demandez à l'auteur, parce que j'ai rien compris moi non plus. » Donc, bon. Donc il y a un sens de la parole, du texte, qui circule comme ça et qui remplace un peu le récit lui-même.
Vous savez qu'il y a une histoire similaire avec Sartre et le diable et le bon Dieu. C'est Wilson, George Wilson, qui est en train de monter au TNP le diable et le bon Dieu. Puis à un moment donné, il dit qu'est-ce que ça veut dire là? Qu'est-ce qui se passe? Personne ne comprend. Sartre. Ils ont dit, bah, téléphonez à Sartre, il est au café, il est au Flore. Il téléphone à Flore, à Sartre, et la légende dit que Sartre était incapable de répondre. Incapable de répondre. On va écouter un peu de musique. Astor Piazzolla, c'est pas mal. Hein. C'est... Voilà, merci Monique. Thank you. merci Monique au 01 43 111 89 40, toujours sur Radio Libertaire, toujours sur Onde de Choc, avec Monsieur Coda Jacques qui pour une fois se tient à peu près convenablement, Jean-Bernard Pouy, Elisabeth Prouveau, un à côté pour Chasse et Croisée aux éditions Douro, et pour ce trilogie Spinoziste. Moi j'ai lu ça, je l'ai relu. On va parler des trois parties, parce que moi je pense qu'il y a une réponse quant à Hegel dans la dernière partie. Donc je vais développer ça sans aucun problème. Mais il y avait un nom que je cherchais, je me disais pourquoi il ne vient pas ce nom, comme ça, vu l'époque où c'était écrit. Et j'ai raconté une petite histoire la dernière fois à Jacques Coda. Vous connaissez la rue de Bagnolet?
Un peu, ouais,
la
oui.
Flèche d'or, il y avait
la flèche d'or,
c'est oui, voilà. C'était dans le temps, ça a été un restaurant assez chic, etc. Et c'était de gare. On descendait sur le côté, et il y avait une troupe de théâtre qui avait installé sous le tunnel une scène très bien faite, avec des projecteurs très bien faits, et c'était vraiment un théâtre. Et là, ils avaient joué ce jour-là, avec des salles qui étaient bourrées, ils avaient joué un texte du fils Burroughs. Qui était aussi bourré que le père, d'ailleurs, aussi douteux que le père. Et je me disais, tiens, alors que c'était bourré, si on faisait ça aujourd'hui, on ne pourrait plus le faire. Est-ce qu'il y aurait encore des spectateurs? Est-ce qu'il y aurait tout ça? Et je me suis interrogé par rapport à Spinoza. Est-ce qu'on a qui lit ça? Qui peut lire ça? Est-ce que c'est une mélancolie de gens âgés? Ou vous croyez que des gens qui ont 20 ans, 25 ans, peuvent lire Spinoza?
Il y en a.
Oui.
Mais j'arrive pas à savoir quelles sont leurs motivations profondes. Je pense que la motivation principale, c'est qu'ils s'intéressent au roman noir, et puis ils me lisent, et puis ceux qui aiment bien ce que je fais arrivent à lire les débuts, comme on dit. Mais il n'y a plus de phénomène de génération. Alors que quand c'est paru, 83, 84, c'était vraiment les jeunes énervés qui aimaient bien cette stylistique, ces références, tout ça. Donc c'était plus idéologique pour eux. Là maintenant, non, je crois pas.
Pardon. C'est une écriture qui est contemporaine du moment où arrivent en France réellement des gens comme Ginsberg et Burroughs. C'est des gens que vous avez vus.
Oh, c'est après quand même, hein, parce que.
Qu'est-ce qui est après?
Ce que j'ai écrit, c'est après.
Oui, non, mais je dis quand ça arrive en France, c'est-à-dire Burroughs, c'est les années 60, ça arrive à peu près dans les 80, vraiment.
Moi, je suis un grand lecteur de Ginsberg et j'ai toujours été complètement saisi par cette écriture. Quoi.
Alors, pour vous répondre à la réponse, pourquoi je fais ça? Parce que je me suis aperçu que plein de gens qui écrivent, hein, 30-40 ans, ce sont des lettres mortes. Ils n'ont plus aucun rapport avec la Beat Generation, ni Ginsberg, ni Burroughs.
Parce qu'ils ne la lisent pas.
Voilà.
Je ne sais pas ce qu'ils ne la lisent pas, parce que c'est vrai que moi, je m'intéresse beaucoup, mais comme personnage, parce que à Van Gogh, l'oreille croquée, bon, tout ça. Et j'ouvre un livre de Ginsberg et je vois à mort l'oreille gauche de Van Gogh ou je sais pas quoi, donc immédiatement je me plonge dedans. Bon, c'est des jeux référentiels aussi qui sont très extrêmement précis. Alors c'est vrai que c'est des idées qui traversent peut-être une époque où c'est vrai que le rock'n'roll par exemple où été formé par ça quand même aussi, il y a énormément de références littéraires qui précèdent les œuvres ou pas. Maintenant, non. Maintenant, le rap, tout ça, c'est du tract. Donc, à une certaine époque, les rockers, pas tous, hein, mais les rockers citent des gens. S'intéresse à des choses sont très très férues de poésie, ce qui n'est pas vraiment, c'est plus vraiment le cas. Enfin, je pense que c'est plus le cas.
Le seul qui est par rapport à ces gens que je rencontre là de temps en temps qui tire son épingle du jeu et qui pour moi n'a rien à voir ni avec Burroughs ni avec Ginsberg, c'est Bukowski.
Ah, et Bukowski, c'est pour mon père, ça.
D'accord. C'est-à-dire, ça, c'est pas vrai.
Non, mais c'est vrai que, l'imaginaire de Bukowski, puis ça, la tragédie, parce que c'est quand même des textes d'une tristesse, d'une violence et d'une tristesse terrible, mais c'est plutôt la génération de mon père, ça. C'est ceux qui... Moi, je suis né après la guerre, les Bukowskiens sont nés avec, enfin, j'ai l'impression. le côté sur la défonce, sur l'alcool, sur les putes, tout ça. Bon, une certaine misère, c'est pas tellement l'imagination de ma génération.
Alors j'ai une réponse. Alors pour moi, ils sont contemporains. Hein, Bukowski, Ginsberg, Bukowski sont contemporains pour moi. Mais j'ai une réponse par Yves Buin. Je ne sais pas si c'est qui a écrit un énorme bouquin sur Kerouac. Il me disait que Bukowski avait mauvaise presse chez Ginsberg, chez les gens de la Beat Generation, parce qu'il le considérait comme un prolo des lettres. C'est-à-dire, eux avaient une forme d'aristocratie, étaient des intellectuels, alors que Bukowski, c'était le type qui était là à la plume, qui noircissait des nouvelles ou des choses comme ça.
Ouais, moi je dirais ça un peu différemment. Je dirais que Bukowski n'est pas un romantique. Les autres sont des romantiques, acharnés. Bukowski, non. Il est vraiment là, c'est d'un réalisme total. Oui, et c'est vraiment un écrivain réaliste. Un écrivain du réel. Ginsberg, Corso, Ferlinghetti, les autres,
ce sont des poètes.
Et des poètes soit symbolistes, ce qui est quand même très très fort, soit comme Ginsberg. Je ne sais pas comment d'ailleurs le dénominer, Ginsberg. Il y a des pages absolument sublimes.
C'est superbe. Bon. Donc on peut le relire, c'est superbe.
Kaddish, il faut
lire. Là, on avait envoyé le mot, bien sûr.
Formidable.
Bien sûr, ouais.
Kaufmann aussi, j'aime bien, mais c'est plus compliqué. Enfin bon. Et il y avait des poètes français qui étaient très intéressants. Il y en avait un qui me plaisait beaucoup et qui a complètement disparu, dont personne ne parle jamais, c'est Dominique Tron.
Oui.
Tu dirais il a un nom à la con, hein, bon, mais Dominique Tron, il avait été, alors c'est peut-être à cause de ça qu'il a disparu, il avait été remarqué et un peu lancé par l'autre là. Bon, alors ça, c'est ça, là j'arrive, donc les références immédiates je les perds, et alors que c'était quelqu'un qui était vraiment plein d'un avenir formidable. Dominique Tron,
je connais pas.
Toi qui t'intéresses à la poésie,
Non.
Il y avait Claude
Perry. Aragon l'avait pris en main. Alors peut-être à cause de ça qu'il est mort. Hein.
C'est peut-être pour ça. Oui, c'est
il a senti que ça pouvait être un rival.
Ouais, voilà.
Jean-Bernard, donc c'est une trilogie qui part en 79. Il y a Spinoza en cul de gueule. Après, de façon très élégante, il y a Assèque.
À sec.
Et vous voyez. Et en troisième position, il y a
avec une poignée de sable.
Une poignée de sable. Hein, et c'est combien il y a de temps? Parce que le style, plus la même écriture. Hein.
Le premier, c'est mon premier bouquin, vraiment mon premier roman. Entre les deux, on m'a demandé d'écrire la suite pour deux raisons, parce que c'était la Coupe du Monde de football, donc c'était quoi, 89, 90.
Il y en a eu plusieurs de Coupe du Monde. C'est celle de 80, je ne sais pas.
Quand la France a gagné, là.
98,
pardon. D'accord. Et là, on m'a demandé de refaire un épisode, de reprendre le personnage. Et puis l'autre, il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 ans, là, j'en avais marre. Mais là, c'est un tract. Hein. J'en avais marre d'entendre parler, avec une poignée de sable, parler des Goncourt, des trucs comme ça. Donc. Moquer un peu.
Alors c'est toujours le même personnage qui revient.
Hein, à la fin, c'est son fils.
C'est son fils, oui. Mais lui, il est avec sa moto Guzzi, il a ses bottes en lézard, il est vraiment dans une...
C'est une vedette du magazine Elle. En fait, non, mais... tout ça, c'était... Moi, je n'ai jamais voulu écrire. Hein, donc on m'a forcé. Et... bon, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'étais animateur culturel, comme on dit, dans un bahut, et ils avaient, les élèves avaient repéré un peu mon âge, tout ça, donc ils avaient su que j'avais 22 ans en 68, donc le bel âge, et que c'est à l'âge où on peut se mêler vraiment aux événements. Donc ils me demandaient de leur raconter 68. Qui apparemment leur manquait. Enfin, ils n'avaient pas vécu un truc comme ça. Mais les histoires idéologiques, tout s'en foutait. Ce qui les intéressait, c'était les barricades, le baston. Donc c'est vrai que la barricade et le baston, en 10 pages, c'est plié. Bon, je ne vais pas dire chaud. Mais bon, je me suis attaqué à ça. Et j'ai créé les conditions qu'il y ait du baston supplémentaire à condition d'en rire, évidemment. Donc il y avait tout le jeu sur les noms des groupes, ce qui n'était pas complètement idiot, parce qu'on s'est tellement fait emmerder par les histoires de groupes, d'appartenance, ainsi de suite, que moi j'étais bien content d'être anarchiste à l'époque, parce que comme ça on était tranquille. Là, personne ne cherchait trop des poux dans la tête. Et après, le foot. Alors le foot me retombe dessus, mais le foot, comme... qui englobe tout, le reste et tout. Donc c'est pour ça qu'il y a des débuts de chapitres, enfin des intitulés qui sont très cons. Le foutre en con, des trucs comme ça. Pour justement éviter d'avoir un discours un peu intelligent sur le foot. Le foot, c'est con. Et donc tout est con dans le foot. Enfin, bon, c'est un peu, je partais de ce principe. Et troisième, c'est donc... c'est un peu un méchant hommage à quelqu'un qui est mort il n'y a pas longtemps, et qui est, qu'on appelle Moreno, Sébastien Moreno, qui est Raphaël Sorin, qui se targuait de créer des vedettes littéraires, un influenceur. Or, il était marrant, donc je l'ai pris comme modèle.
D'accord.
Tu l'as connu, toi ?
Oui, tu t'aurais pu t'assurer. Moi aussi, je l'ai connu, voilà, oui, je l'ai connu.
C'est une grande gueule, ouais.
Voilà, non, moi j'avais un terme un peu plus péjoratif, il y a une suffisance dans tout ça.
Oui, c'est ça, et puis alors, il était avec Guégan, qui était encore pire, bon, enfin bref. Mais Guégan aimait bien la littérature populaire, alors que Raphaël, je sais pas du tout, c'était difficile d'avoir des goûts. Il était capable de faire n'importe quoi et de manger à n'importe quel râtelier, alors vraiment...
Ben, on est revenu au terme de départ, et là, ben, Elisabeth va intervenir quand même. Vous êtes là quand même pour travailler, Elisabeth. Là. Paraît-il que vous avez travaillé sur l'Autréamont et Mal d'Aurore.
Oui, moi j'aime beaucoup faire des photos en m'appuyant sur des grands textes. Donc j'ai fait d'abord un travail sur l'Enfer de Dante. Et puis après, j'ai fait un travail sur l'Autréamont, parce que pour moi, l'Enfer de Dante, c'était un enfer figé là, pour les gens qui sont punis. Alors que l'Autréamont, c'est beaucoup plus vivant. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait aussi un travail sur les radeaux de la Méduse. J'aime bien me...
Quel est le travail ? Parce que moi, j'ai reçu des gens, alors, en tout domaine, qui ont fait de la peinture sur l'Autréamont, qui ont fait de la photo sur l'Autréamont, qui ont fait de la musique sur l'Autréamont.
Moi, c'est la photo.
Oui, je sais, j'ai compris. Alors, qu'est-ce que c'est que ces photos ? Qu'est-ce qu'on peut photographier quand on a lu l'Autréamont ?
De la viande.
Bon, ça serait bacon.
Ah oui, mais ça peut être...
Bacon annexe.
Qu'est-ce qu'on peut...
Non, c'est remettre l'humain dans un univers qui, pour moi, je trouve que c'est un grand comique, l'Autréamont.
Ah oui, c'est un grand tout, d'ailleurs. Un tout que c'est... Oui, mais c'est un grand tout, c'est tellement magnifique.
C'est un grand tout et c'est explosif tout le temps, donc...
Comme ça, d'accord.
Jacques, tu l'as lu, l'Autréamont peu...
Non, jamais. Si,
mais... Non, mais tu l'as lu, c'est fabuleux, non ? Quand tu le relis, moi je l'ai relu dernièrement.
C'est formidable. Et moi, j'ai un souvenir très fort de...
C'est dommage.
Excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, vas-y.
Je t'empêche. J'adore le film pour ça, c'est le film de Godard qui se passe en Seine-et-Oise avec le Front de Libération de Seine-et-Oise. Weekend.
Weekend, oui.
Et Weekend, il y a. Comment il s'appelle
Jean-Yann.
Il joue de la batterie, là. Le Calfon.
Ah, il y a Calfon, oui.
Qui est dans la forêt, joue mal de la batterie, mais enfin, il fait une espèce de festival de roulement de tambour. Et. Il récite « Je te salue, vieil océan » et tout. C'est extraordinaire, parce que c'est vraiment la parole de l'Autréamont. Je ne l'ai jamais entendue aussi bien qu'avec des acteurs, qu'avec lui.
Là, lui, par exemple, sur mon travail sur les textes, le comédien qui l'a lu, comment il s'appelle ?
Denis Lavant,
il le lit d'une façon truculente. Hein, là, on a filmé les photos que j'ai faites, et lui, il déclame sur les photos les textes qui correspondent aux photos, et c'est extraordinaire.
Oui,
et l'Autréamont, c'est toujours aussi moderne, aussi explosif, puis quelle culture...
Il y a tout, l'Autréamont. Quand on prend la voix de Denis Lavant, voilà. Je sais pas, parce que moi, j'ai un enregistrement d'un texte de Robert Desnos, La liberté ou l'amour, par Denis Lavant, ça dure 20 minutes. Mais c'est somptueux.
Ah oui, mais
somptueux.
je vous le ferai parvenir si vous voulez, c'est extraordinaire. Alors en plus il mime. Alors il y avait les images, il y avait le visage de Denis Lavant complètement comme ça, et son ton, et puis il mime, c'était extraordinaire.
Il y a Philippe Léotard aussi, je crois.
Ah oui, alors Philippe Léotard, c'est sublime. Quand il a pris le passage sur l'époux.
Ah, l'époux. Ah,
oui, c'est
magnifique.
Oui.
C'est pareil.
C'est quelqu'un qui est tellement habité, Philippe Léotard. C'est...
Non, puis ce texte de Trémont, on pouvait le lire 100 fois.
Mais bon, c'est toujours fois, différent. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont peur du texte. Et moi, quand j'ai fait une exposition en mettant les phrases et les photos, ils m'ont dit, tiens... Ça nous donne envie de le lire, finalement. Finalement, c'est abordable.
C'est pas aussi terrible que ça. Oui,
c'est drôle.
Mais t'as choisi des phrases...
Moi, j'ai choisi ce qui m'interpelle. Voilà, en fait, voilà. Quand je fais ça, je lis le livre, et après, je ne veux plus le regarder, et je fais les photos qu'avec les souvenirs, et après, je les recale, tu vois, pour qu'il y ait un décalage.
Comme Jean-Bernard.
Comme j'ai fait avec Jean-Bernard.
J'ai
fait l'inverse.
Ce qu'on va faire, on va écouter un bout de Piazzolla, puis nous, on va finir par l'autre et amont, parce qu'on en parle dans la troisième partie de l'autre et amont.
Hein? Ok. Voilà.
sur Radio Libertaire, 01 43 71 89 40. Et merci, Monique. Donc, je confondais Pinelli avec Pinoncelli. Pinoncelli, c'est lui qui a pissé.
Pinoncelli, ben, c'est un abstrait pur et dur, lui.
Ah non, non, c'est ça. Pinoncelli, c'est celui qui a pissé dans, le, ah, oui, dans l'urinoir de Duchamp.
Ah, oui. Ah, c'est ça.
Voilà, moi, j'ai une sympathie pour celui-là parce que c'est tellement évident. C'est bien. Elisabeth, puisqu'on on parlait de l'Autréamon, ce grand jet, ce qui est paradoxal, c'est que juste après, qu'est-ce qui arrive? Arrivent les poésies. Les poésies qui sont vraiment l'antipode.
Oui, mais c'était le début. Il n'a pas eu le temps de les faire, puisqu'il est mort très très jeune. Hein. Il est mort à 22 ans.
Oui, mais je veux dire, c'est une antipode totale.
Oui, oui.
Voilà, c'est ça. Il est,
bon, on va... Ça aurait été intéressant, d'ailleurs, de voir ce qui est... S'il avait eu le temps de le faire.
Il y a deux passages dans un sexe, c'est très très court, et puis après on va revenir à la dernière partie, ce qui est quasiment la réponse par rapport à Hegel que j'avais indiqué à cette jeune fille. Alors ça c'est dans un sexe, hein. Saint-Nazaire morne pleine. Et pas de Stendhal pour décrire la douleur, les tripes, le feu, le sang versé. Les néo-hegeliens avaient passé leur abattis à gauche. Bon, Stendhal, c'est quelque chose qui existe ou pas, ou c'est
Moi j'aime bien le personnage.
Oui.
Sa littérature, bah, c'est le classique qu'on nous a imposé à l'école, ouais, intéressante. Plus que Flaubert, je hais Flaubert. Mmh.
On ne sera pas d'accord, mais c'est pas grave.
Stendhal, c'est le bonhomme qui m'intéresse. C'était un. Il pensait qu'au sexe. Ouais. Et il pensait.
Coda aussi, hein.
Oui, enfin, il n'est pas encore ambassadeur.
On va pas tarder.
Je l'ai été.
Au Vatican.
Au Vatican
bientôt.
Et pas loin, il y a des pages de Stendhal quand il est nommé à Civitavec, hein, dès qu'il arrive dans la ville, il dit c'est foutu. Des gonzesses ici, enfin bref. Voilà. Et puis il dit dans l'air, il n'y a pas. Ah il n'y a pas de stupre dans l'air. Et lui, il dit je vais m'emmerder. Donc. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à écrire.
Bah oui. C'est moi, c'est un peu mon cas.
Écrire la sorte de. Donc, Stendhal. Et puis, Stendhal a une espèce de méchanceté interne qui est liée aussi à sa jalousie pour tout le reste, à tout ça. Enfin, c'est vraiment un personnage très négatif et très intéressant à cause de ça. Quoi. Et un styliste.
Ah bah, oui, c'est magnifique.
Oui.
Ça, Stendhal, oui, bien sûr.
Alors que Flaubert est plus... Oh, pardon, j'ai encore tapé sur la table.
Attention, mon sniper va pas tarder à tirer, là. Voilà.
Flaubert, moi, il m'intéresse moins, parce que on sent... Flaubert, c'est le réalisme, quand même, où rien ne dépasse. Alors, avec des choix esthétiques, des choix moraux, tout ce qu'on veut, des principes, mais... Ça décarre pas. Alors, quand on arrive à Un cœur simple, c'est vrai que c'est le seul Flaubert que je supporte. Un cœur simple, c'est absolument magnifique parce qu'il se laisse un peu aller.
C'est la condition humaine dans toute sa splendeur. Hein.
Il en a rien à foutre, de l'épaisseur, de la destinée, tout ça.
Dans l'éducation sentimentale, il y a un très beau. La fin. Quand ils ont traversé Paris, ils ont fait la bringue, ils ont fait tout ça, ils ont vécu, c'est des jeunes gens qui sont éclatants de vie. L'autre, il dit à son copain, et toi alors, qu'est-ce qui était le plus important pour toi? L'autre, il lui répond, quand on allait au bordel chez la Turqueresse. Oui. Ils n'ont vu que ça, le bordel chez la Turqueresse. Voilà. Alors, donc on va revenir à l'Autréamont, si je retrouve ma page. Et puis Julius, mon père, s'est tourné vers moi, qu'il ne voyait qu'à peine dans l'obscurité, comme si je m'évanouissais à ses yeux, dans l'avenir le plus sombre. Il n'a pas dit un mot, mais bizarrement, un faisceau d'ondes, de mots, d'invectives, traversèrent le faible espace entre nous et me pénétrèrent, comme si l'Autréamont me parlait, comme s'il fallait que j'utilise Maldoror pour comprendre et l'entendre.
Ouais.
Voilà. Il tombe comme ça, et là on a le droit à un passage. Tout à l'heure, madame à côté, Elisabeth, me parlait du plagiat de l'Autréamont, mais là on a un clin d'œil à l'Autréamont. C'est une phrase de l'Autréamont qui apparaît.
Oui, qui est d'ailleurs, je me demande si c'est pas dans la fin de tout ce qu'il dit sur le poulpe. Et comme à l'époque, j'étais en plein dedans, je crois que j'avais fait une allusion à ça. Enfin, je me mélange peut-être les pinceaux. Mais c'est vrai que ça, on a envie d'écrire sur l'Autréamont, quoi, quand on le lit. Et je pense que notre amour donne envie, au niveau créatif, donne envie aux gens.
T'as envie de le montrer aussi, parce que c'est pas
Godard,
assez évident,
oui. Personne à l'époque, pour mettre un grand morceau de Notre-Dame au milieu d'un film Nouvelle Vague, très, très jeune, qui parle de révolution et tout ça, du Front de Libération de Seine-et-Oise, il faut être gonflé quand même. Mmh, faut. Eh ben non, c'était exactement ça. Là. C'était lié à la gestuelle aussi de Calfon, au lieu, aux petits trucs qu'on voyait, ils étaient en train de manger, les anthropophages dans le coin, enfin je sais pas quoi. C'est un peu ça, l'autre amont, c'est la permission.
Je ne sais pas si le nom de Jean Rollin vous inspire, c'était un cinéaste porno, oui, mais aussi un cinéaste de fantastique.
Oui, mais il filmait trop mal. Alors,
très bien. Mais il a fait pareil, à un moment donné, il y a une grande tablée avec des gens qui sont en train de se boffrer bien campagnards et tout, puis il y a un mec qui se met à citer du Corbière. Comme celui du Tristan Corbière, comme ça.
Rollin, parce que moi, j'étais formé par le cinéma marginal. Donc, Rollin, il nous emmerdait tout le temps.
Oui, c'est bien. Pourquoi films.
Mais enfin, c'était toujours. Il y avait toujours un ramassis de vieilles choses qui sont. Qui étaient communes à tous ces cinéastes-là. Les bonnes sœurs en cornette, les filles à poil, tout ça. Enfin bon. Donc c'était un peu pénible. Je préfère les attitudes plus radicales et plus abstraites. Enfin, j'étais assez copain avec un cinéaste américain, Pierre Olitzer, et qui était de la bande à Warhol un peu. Et une fois, il avait piqué des films à Warhol. En plus, c'était bien parce que il était un voleur et il a fini, il est enterré dans le Perche. Ça, c'est peut-être une fin très indormante, quoique. Et bref, une fois, il nous passe un film, et alors, entre-temps, il va picoler derrière, parce que c'est film. Mais il n'avait pas vu qu'il avait passé le film à l'envers. C'est du 16 mm américain, on pouvait ça. Et donc, la bande-son se trouvait de l'autre côté, donc ça nous avait cassé la tête et tout. Bon. Et ça durait une demi-heure. Et après une demi-heure, il nous dit « Ah !» Malheureusement, le film était à l'envers. Alors on dit, oui, on a vu. Enfin, bref. Et je vais vous le repasser à l'endroit. Donc il repasse le film à l'endroit. C'était moins bien.
C'était moins bien. Là.
Et on lui a dit, c'est beaucoup mieux à l'envers pour les prochaines. Ça, il avait adoré. Donc,
Je ne répéterai pas à Jean Rollin, puisqu'il nous a quitté. C'était un grand ami à moi, d'ailleurs, très très grand ami à moi, qui nous a quitté il y a quelques années. Hein,
oui. Voilà,
mais je crois qu'il faudrait voir Rollin de plus près.
Il y a un film de Jean Rollin où il y a la plus belle réplique du cinéma, je crois. C'est à la fin, comment il s'appelait ce critique qui travaille de temps en temps les cahiers du cinéma, qui est un grand mec avec les cheveux comme ça, les yeux un peu hallucinés.
Et Michel Simon.
Hein?
Simon.
Non,
Simon Solo.
Non. Qui c'est qui
enfin bref. Bergala, et il jouait de temps en temps. Avant. Il jouait dans les films des copains, comme ça. Bon, enfin, mais. Et Rollin l'avait repris. Et à la fin d'un film où on comprenait que dalle, vaguement science-fiction, toujours, enfin, fantastique du moins, et il y avait, on s'approchait, Michel Delahaye.
Ah, Michel Delahaye.
Et donc la caméra s'approchait de Michel Delahaye, qui avait l'air de plus en plus terrifiant, plus ils étaient prêts. Et à la fin, il dit : nous allons vivre des temps terrifiants. Voilà. Et le film s'arrêtait.
Michel Delahaye qui faisait le vampire. Je ne sais pas si vous dans le film d'Orla qui faisait le vampire. Une question maintenant très grave, maintenant, puisque c'est la fin de cette trilogie. Là, c'est la fin de la trilogie. C'est sur le Sacré-Cœur. Je dois dire, est-ce qu'on peut retourner se promener devant le Sacré-Cœur ou c'est toujours miné?
Je suis encore passé devant l'autre jour. Oui.
Attention.
J'ai rêvé. Moi, j'ai envie. Enfin, vrai.
Ah oui,
si j'avais. Oui, bah oui.
Alors, maintenant.
Non, j'avais dans ce finot, il chope un Catilina, comment ça s'appelle, les avions pour éteindre les incendies, là.
Canadair,
oui. Ils le remplissent de 30 000 litres de peinture rose et ils jettent ça sur le Sacré-Cœur.
Sur le gâteau, là, ouais.
Alors, ce qui fait une meringue.
C'est magnifique.
Et ça, c'est les dernières pages de la trilogie. Hein. Il y a longtemps, le Sacré-Cœur, cette honte chantilly, chier sur Paris pour pournir les communards, nous l'avons repeint en rose. Bonne idée. Cela suffisait. C'était le pire acte esthétique que nous pouvions commettre pour tétaniser le mauvais goût théoriquement des Hegeliens. Maintenant, c'est différent. Les symboles ont vécu. Les paraboles puent la mort. Nous avons mis plus d'un an à piéger. Alors, nous avons mis plus d'un an à piéger le Sacré-Cœur. Partout, au-dessous, à droite, à gauche, il est à présent miné, farci, truffé d'au moins 300 kilos d'explosifs. Nous avons installé un système très sophistiqué de mise à feu par reconnaissance vocale. Il suffira que quelqu'un dans les parages prononce un mot Spinoza. Voilà. Donc il ne faut pas aller au Sacré-Cœur pour. Voilà. Ben, c'était un plaisir, monsieur Pouy.
Eh bien, le plaisir est réciproque.
Elisabeth, un plaisir aussi. Eh ben, avoir le Lautréamont, hein. Ça serait un plaisir, monsieur. Oh, bon. Je ne vous dirai rien, monsieur Coda, puisque vous avez été exemplaire aujourd'hui. Je conseillerais de lire quand même Jésus, Kiel, Juliette, Héloïse, aux éditions Bleu Turquin, édition Douro.
C'est pas Bleu Turquin, c'est la Diagonale de l'écrivain. C'est un collègue.
Ah bon, d'accord.
Voilà, c'est la même maison.
Voilà, et puis là, comme on est quand même des politiques, on ne fait pas n'importe quoi, ce Zemmour contre l'histoire, ça vaut 4 euros et c'est pas triste de voir comment quelqu'un trifouille
et
tout ça.
Tu trouves où ça ?
Pour toucher tous les libraires. C'est Gallimard qui fait ça et c'est très, très, très utile. Il faut remercier Monique en cabine, voilà, mon sniper préféré. Voilà. Bye-bye. Merci, c'était un plaisir.
D'un plaisir réciproque. Bon.
c'est peut-être Mozart. Le gosse qui tambourine des deux poings sur le bazar, des batteries de cuisine, jamais on le saura. L'autocar du collège passe pas par opéra, rappé pour le solfège. C'est peut-être Colette, la gamine penchée, qui raconte en cachette le fruit de ses péchés. Jamais on le saura, elle aura avant l'heure un torchon dans les bras pour se torcher le cœur. C'est peut-être grand Jacques, le petit au rire bête, qui pousse dans la flaque sa boîte d'allumettes. Jamais on le saura, la famille est maçon, rappé Bora Bora, un mur sur l'horizon. Peut-être Van Gogh, le petit qui grave des ailes sur la porte des Cogs avec son opinel. Jamais on le saura, rapper les tubes de bleu, il fera ses chougas dans l'épicerie de ses vieux. Peut-être Cerdan, le môme devant l'école, qui recolle ses dents à coups de lapidole. Jamais on le saura, K.O. pour ses 20 piges dans le ring de Cédar, en serrant son vertige. Peut-être Jésus, le môme de la Tour Neuve, qu'a volé au Parisu un gros œuf et un bœuf. On le saura jamais, pauvre flocon de neige, pour un bon Dieu qui naît 100 millions font corps.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité. La radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Bonjour à toutes et tous, et aujourd'hui dans Trou Noir avec Serge et Monique, nous recevons Jean-Marc Royer. Mais avant de commencer à échanger avec lui, deux informations. D'une part, aujourd'hui, 18 mars, nous fêtons le 153e anniversaire du début de la Commune de Paris, 1871. Pour rappeler ce qui s'est passé ce jour-là et quel est l'événement qui a déclenché cette insurrection. Conformément à la convention d'armistice, la garde nationale a conservé, après l'armistice avec les troupes prussiennes, hein, bien sûr, la garde nationale de Paris donc, a conservé ses armes et a sous sa garde les canons fabriqués pendant le siège et payés par souscription des Parisiens. Ces derniers, donc les Parisiens, considèrent que ces 400 pièces d'artillerie leur appartiennent. Elles sont situées dans différents endroits de Paris, et notamment Place des Vosges et tout particulièrement à Montmartre, sur les hauteurs. Le gouvernement versaillais, donc dirigé par le sympathique Adolphe Thiers, le gouvernement fait donc plusieurs tentatives infructueuses pour les récupérer, le 8 mars, puis le 16 mars. Les choses vont donc se cristalliser le 18 mars, puisqu'à 3 heures du matin, des soldats versaillais se mettent en marche vers leur objectif, donc le sommet de la butte Montmartre. Objectif qui est atteint avant 6 heures, mais les chevaux et les attelages prévus sont en retard et le retrait des premiers canons est ralenti. La population qui se réveille se rassemble, les gardes nationaux arrivent en armes, les troupes versaillaises du 88e régiment de marche fraternisent avec la population, et les généraux Lecomte et Clément Thomas sont arrêtés, ils seront exécutés un peu plus tard dans la journée. C'est donc par cette révolte et ce refus de la part de la population parisienne d'accepter une décision du pouvoir central réfugié à Versailles que commence la Commune de Paris. Pour celles et ceux qui voudraient prolonger les commémorations, le souvenir de cet événement, les amis de la Commune de Paris vous proposent aujourd'hui même un parcours sur les traces de la presse pendant la Commune de Paris. Ils vous donnent rendez-vous à 18h devant la Bourse de Commerce, métro, Bourse de Commerce ou les Halles. Donc 18h, vous avez le temps d'écouter Trou Noir jusqu'à la fin et de courir très vite jusqu'à la Bourse du Travail. Voilà, un après-midi parisien bien rempli. Alors comme je le disais au tout début, nous recevons aujourd'hui Jean-Marc Royer. Je retrouve mes petits papiers. Oui, donc Jean-Marc Royer qui est avec nous. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Jean-Marc a entamé en mars 1922, donc au début, dans les tout premiers temps de la guerre d'invasion de l'Ukraine par la Russie. Jean-Marc a entamé en 2022 ses carnets de guerre et ses d'histoire immédiate afin de décrire et analyser l'évolution de la situation après l'agression russe en Ukraine. Le numéro 14, intitulé « Du goulag polaire au sous-sol d'une centrale nucléaire » vient d'être publié 2 ans plus tard. Ils peuvent être regroupés en 4 rubriques. La première, les antériorités de la guerre d'agression. Ensuite, la Russie de Poutine, ses idéologues et ses suppôts. La troisième, les dimensions nucléaires de la guerre. Quatrième dimension, la guerre que le peuple ukrainien affronte. Sur ce dernier point, qui traite de l'actualité, Jean-Marc Royer restitue la guerre d'usure imposée au peuple ukrainien dans un cadre géopolitique qui montre les États-Unis s'en désintéressant progressivement et l'Europe n'ayant pas les moyens militaires de prendre la relève. Dans la période actuelle, on doit s'interroger sur la redistribution des rapports de force en cours entre impérialismes. Depuis l'effondrement du capitalisme d'État soviéto-stalinien,